VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 29 octobre 2015, en direct de Washington, Claire Morin-Gibourg et Michel Joseph. D'abord, les titres. Calme en Côte d'Ivoire après la victoire sans appel d'Alassane Ouattara.
Nouveaux affrontements mortels dans le Nord Kivu, en RDC.
Comparution hier au Cameroun de la figure de la société civile, Jean-Marc Bikoko.
Nous sommes accusés de rébellion et de désobéissance aux autorités administratives. On est donc condamné à une garde à vue qui relève des faits de grand banditisme et de terrorisme.
En Centrafrique, l'autorité nationale des élections a une nouvelle présidente, mais les problèmes restent entiers.
Nous, on a toujours dit que aller maintenant aux élections, c'est comme pousser les Centrafricains vers l'abattoir, du moment où le pays n'est même pas sécurisé.
Aurélien Simpliste, secrétaire exécutif du parti Kalemba PDS.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais tout d'abord, le journal. Dans l'actualité africaine, calme en Côte d'Ivoire après l'élection d'Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a donc un nouveau président depuis hier matin. Mercredi, aucune manifestation de joie ou de mécontentement spontané n'a été constatée à Abidjan. En soirée, des fêtes ont eu lieu au QG de la coalition de Ouattara ainsi qu'à l'hôtel du Golfe, lieu où le président Ouattara avait passé plusieurs mois en 2010-2011 lors de la crise post-électorale. Parmi les musiciens qui ont assuré l'ambiance, DJ Arafat, un des rois du coupé-décalé, Alassane Ouattara a aussi salué ses supporters mais n'a pas pris la parole. Notre envoyée spéciale Tatiana Mosso a recueilli la réaction du directeur de campagne et ministre Amadou Gon Koulibaly.
Nous sommes donc très satisfaits du résultat que nous avons. Il faut déjà noter que l'élection était une élection totalement paisible et c'était l'un des enjeux importants de cette élection. Depuis donc environ 20 ans, donc, nous n'avions pas connu d'élection paisible donc en Côte d'Ivoire. Nous venons d'avoir une élection démocratique donc, où les Ivoiriens ont pu librement donc, faire campagne. Ils ont pu aller voter librement. Le scrutin donc, a eu un dépouillement qui s'est fait dans de bonnes conditions et une proclamation des résultats qui s'est faite par la Commission électorale indépendante et ceci de manière paisible dans le calme. Donc c'est le premier acquis de cette élection. Au-delà de ça, le score obtenu par le président Ouattara de 83,66%, quasiment 84%, est un élément de forte légitimité donc, au niveau du peuple ivoirien donc, qui lui a été donné et qui traduit clairement, je dirais, la satisfaction par rapport à son bilan et l'adhésion du peuple ivoirien par rapport au projet futur sur la période de 2016-2020.
Amadou Gon Koulibaly, directeur de campagne d'Alassane Ouattara. Monsieur Ouattara devait être investi d'ici la mi-novembre. Des élections législatives doivent avoir lieu dans les deux prochains mois.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 4 rebelles ougandais et 2 soldats congolais ont été tués dans des combats. Eddy Issango.
Ces attaques ont eu lieu dans les territoires de Beni, dans le nord du Nord Kivu, théâtre des nombreuses attaques attribuées aux rebelles musulmans ougandais de l'Alliance des Forces Démocratiques. L'armée congolaise a lancé une vaste opération dite Sokola ou nettoyage. D'après le lieutenant Mac Azukai, porte-parole militaire, après 3 jours de combats au sud-est des Rengeti, 4 rebelles ADF et 2 soldats ont été tués. De son côté, la MONUSCO a placé en alerte maximale ses troupes dans la région. Les rebelles ougandais sont accusés d'avoir tué plus de 400 civils dans une série de massacres depuis octobre 2014 dans les territoires de Beni et aux confins de l'Ituri.
L'Union européenne prétend aider la Guinée-Bissau à se repositionner dans la voie du développement en contribuant à la mise en œuvre de plusieurs réformes de services de l'État, a déclaré aujourd'hui à Bissau son représentant Victor Madeira dos Santos. De Bissau, la correspondance de Noua Mankali.
L'information a été donnée par Victor Madeira dos Santos, représentant de l'Union européenne dans le pays, à sa sortie de sa première rencontre avec tous les membres du nouveau gouvernement. Madeira dos Santos a annoncé que les appuis de l'Union européenne vont se concentrer au niveau des réformes, principalement dans les secteurs indiqués par les autorités bissau-guinéennes, à savoir la justice, la défense et la sécurité, l'administration publique, la santé et l'éducation. Ce diplomate des 28 a souligné que son organisation est encore en discussion préliminaire avec les autorités bissau-guinéenne pour étudier ensemble la façon dont l'Union européenne peut mettre en exécution son aide, a conclu le diplomate d'origine portugaise. Nouaman Kali Bissau, VOA Afrique.
Le Conseil de sécurité a apporté son soutien hier, mercredi, à la décision de l'Union africaine de lancer une enquête sur la violation des droits de l'homme au Burundi et s'est dit prêt à agir. Dans une déclaration unanime de ses 15 membres, les Nations Unies se déclarent vivement préoccupées par l'insécurité croissante et la montée constante de la violence au Burundi depuis la réélection très controversée du président Pierre Nkurunziza. Les violences qui secouent le pays ont déjà fait quelque 200 morts et 200 000 personnes ont fui le pays.
Au Soudan, des agents de Service national de renseignement et de sécurité, le NIS, ont arrêté hier à Khartoum trois figures de l'opposition pour avoir critiqué le gouvernement au cours de discours publics, a indiqué leur parti politique. Après avoir été brièvement détenus, les trois opposants ont été emmenés dans un endroit inconnu. Cette dernière arrestation intervient alors que Khartoum redouble d'efforts pour persuader les partis d'opposition à se joindre à un dialogue national lancé le 10 octobre dernier. La plupart des groupes d'opposition et rebelles boycottent ce dialogue, appelant à une rencontre hors du Soudan pour fixer les termes des négociations.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, campagne présidentielle aux États-Unis. Le troisième débat des candidats républicains a eu lieu hier soir. Les deux meneurs de la course aux primaires républicaines pour la Maison-Blanche, le milliardaire Donald Trump et le neurochirurgien à la retraite Ben Carson, ont défendu leurs projets économiques, jugés irréalistes et approximatifs par certains de leurs rivaux. Henri Francisque.
La joute télévisée a mis en évidence le paradoxe des primaires républicaines 2016. Les candidats ayant exercé des responsabilités politiques, souvent avec succès, sont relégués loin derrière deux hommes sans expérience politique, mais qui captivent la base conservatrice pour leur discours anti-establishment. Un tumulte également visible au Congrès, où les républicains viennent de changer de chef. À eux deux, Donald Trump et Ben Carson, le seul candidat noir, remportent environ la moitié des intentions de vote des républicains, à trois mois du début des primaires en février 2016. Mais les élus et ex-élus ont sorti les gants de boxe mercredi soir à l'occasion du troisième débat de la saison organisé par la chaîne financière CNBC à l'Université du Colorado à Boulder. Le mania de l'immobilier Donald Trump a d'emblée été attaqué pour ses propositions jugées extravagantes, comme une énorme baisse d'impôts et la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.
I didn't say that the rate would be 10%. I used the tithing analogy.
I understand okay. that, but if you, if you look at the numbers, the you probably rate, have to get to 28%.
The rate is going to be much closer to
15%. Ben Carson s'est lui aussi retrouvé en difficulté pour justifier le réalisme de sa proposition d'un taux d'impôt unique à 10%. Le prochain débat républicain aura lieu le 10 novembre.
Toujours aux États-Unis, le policier blanc qui a mené une arrestation brutale d'une lycéenne noire dans une salle de classe a été renvoyé. Des détails avec Jean-Roger Bion.
L'agent de police Benfield, auteur de l'intervention musclée lundi dans un lycée, a fait une action inacceptable, d'après le shérif Léon Lott. Il a d'abord été administrativement suspendu et vient d'être limogé. Son action a été filmée par les élèves. Dans plusieurs vidéos devenues virales sur le net, on le voit arracher violemment de sa chaise une adolescente noire avant de la traîner par terre à travers la classe. Élève au lycée Spring Valley dans l'État de Caroline du Sud, la jeune fille avait refusé d'obéir aux policiers qui lui ordonnaient de sortir. La justice américaine a ouvert une enquête sur cette arrestation brutale, parfois meurtrière, impliquant des policiers blancs face à des noirs aux États-Unis.
crise en Syrie, les pourparlers internationaux qui vont se tenir en fin de semaine à Vienne représentent la meilleure chance depuis le début de la guerre en 2011 de pouvoir trouver une solution politique, a jugé hier mercredi le secrétaire d'État américain John Kerry.
My friends, the challenge that we face in Syria today is nothing less.
Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui en Syrie n'est rien de moins qu'une course pour sortir de l'enfer, a-t-il déclaré. Le chef de la diplomatie américaine est l'un des artisans des discussions internationales, incluant notamment l'Iran, qui doivent s'ouvrir jeudi dans la capitale autrichienne pour une réunion quadripartite avec ses homologues russes, saoudiens et turcs. En plus de 4 ans de conflit en Syrie, la communauté internationale s'est déjà retrouvée à maintes reprises, mais toutes les négociations ont capoté.
Crise migratoire en Europe. Pour contrôler le flux des migrants qui attise les tensions entre les pays de l'Union européenne, l'Autriche a annoncé des mesures de sécurisation de sa frontière avec la Slovénie, pouvant inclure l'édification d'une clôture, ce qui serait une première dans l'espace Schengen. La crise migratoire pourrait provoquer un séisme dans le paysage politique européen en remettant en cause le principe de libre circulation, avait mis en garde mardi le président du Conseil européen, Donald Tusk.
De nouvelles attaques au couteau ont maintenu hier un climat de forte tension entre Palestiniens et Israéliens qui, s'ils ne cessaient pas, pourraient mener à la catastrophe, selon un responsable de l'ONU. La vague de violence semblait cependant en voie de diminuer à Jérusalem, qui n'a plus connu d'attentat depuis le 17 octobre, selon les autorités israéliennes. En dépit de cette apparente baisse d'intensité, le président Mahmoud Abbas a de nouveau demandé pour les Palestiniens la protection de la communauté internationale. Sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce matin avec Anastasie Toudiech.
1500 hommes et femmes d'affaires ont participé au Business Forum hier en marge du sommet du Forum Inde-Afrique à New Delhi. Au programme, les principaux domaines de coopération entre l'Inde et l'Afrique, les infrastructures, l'énergie, la santé, l'agriculture et les nouvelles technologies. Les 5 principaux partenaires commerciaux africains de l'autre géant asiatique sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Égypte et la Tanzanie. Les zones prioritaires de croissance sont la côte au Burkina Faso. Le pôle de croissance de Bagré, dans le centre du pays, en est un bon exemple. Le site offre un potentiel agricole très riche et soulève de nombreux espoirs. Dynamiser la création d'emplois, 30 000 prévus, quadrupler la production agropastorale, principalement rizicole et aussi halieutique, de la région. D'après les projections sur la période 2014-2017, cette zone prioritaire de croissance devrait permettre de réduire le taux de pauvreté de 5,3 et améliorer la croissance de 0,2 en 2015, 0,4 en 2016 et 0,5 en 2017.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie. Et maintenant, notre page sport avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Claire.
L'embarras du choix pour l'athlétisme kényan en vue des Jeux Olympiques de 2016.
La fédération kényane renonce à organiser un marathon pour sélectionner les athlètes qui parcourront la distance à Rio. Pour les Jeux Olympiques, l'été prochain, les marathoniens kényans sélectionnés le seront sur la base de leurs résultats à venir et seront pris en compte, Claire, les mondiaux 2015 qui ont eu lieu en août dernier, mais aussi les marathons de Tokyo, de Londres, de Berlin, de Chicago et de New York, ainsi que d'autres marathons organisés avant le 30 avril 2016.
Didier Drogba en piste pour les playoffs en Major League Soccer.
Oui, à 37 ans, Didier Drogba et son club de Montréal seront opposés ce jeudi à Toronto lors de la phase finale de la Ligue nord-américaine. L'attaquant ivoirien n'a disputé que 11 des 34 matchs de saison régulière avec Montréal. Mais avec ses 11 buts, il est le grand artisan de la 3e place de son équipe dans la conférence Est.
Tennis, master féminin de Singapour.
L'Espagnol Garbine Muguruza, numéro 3 mondial, s'est rapproché des demi-finales du Masters féminin en enlevant son 2e succès en 2 rencontres. Elle bat l'Allemande Angélique Kerber, le score 6-4-6-4. Enfin Claire, la saison NBA a repris, le championnat de basket nord-américain. Je vous laisse donner quelques résultats cette nuit.
Tout à fait Nicolas, parmi les 14 matchs disputés hier soir, après leur défaite mardi, les Cavaliers de Cleveland, l'équipe de LeBron James, se redresse et bat Memphis 106-76. Match serré mais belle victoire, 112 à 106, des Thunder d'Oklahoma contre les Spurs de San Antonio, l'équipe de Tony Parker. Enfin, nouveau succès des Bulls de Chicago, 115 à 100 face aux Brooklyn Nets.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et nous passons maintenant au dossier du jour. Après la victoire éclatante d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, l'heure est désormais aux perspectives d'avenir. Que pensent les Ivoiriens de la victoire du président sortant? Qu'attendent-ils de son second mandat? Tatiana Mousseau, notre envoyée spéciale à Abidjan, leur a tendu son micro.
Les résultats ont été donnés normalement et nous en sommes heureux. Bon, les résultats sont sans appel. À ce niveau, je n'ai pas de souci parce qu'on peut demander un recomptage de voix lorsque l'homme même reconnaît sa popularité. Quand on voit la distance de 83%, le deuxième qui suit à 9%, je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci puisqu'il n'y avait pas de force majeure dans cette élection. Ce qu'on demande surtout, c'est qu'ils se mettent tous ensemble pour l'intérêt du pays. Il ne faut pas que chacun regarde ce qu'il aurait pu gagner en devenant président et autres. On doit regarder l'intérêt du peuple ivoirien pour qu'on puisse avancer.
C'est vrai que nous avons assisté à un taux de participation qui n'est pas aussi élevé. Mais le plus important, c'est qu'il y a un président qui a été élu. Et qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous devons tourner la page de la violence et puis aller de l'avant. Je pense que tous les candidats qui ont participé à ces élections doivent accepter les résultats. Et dans tous les cas, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je voulais personnellement m'adresser au président de la République. Je souhaite vraiment que son combat soit celui de la réconciliation. Une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, nous avons participé aux élections pour prouver au monde entier que le Front populaire ivoirien n'est pas un parti de tueurs, mais un parti de paix. Nous sommes déjà entendus à ce qui va arriver là. Là, les résultats des élections ne nous étonnent pas, parce que c'est la même chose qui s'est passée en 2010. Mais nous voulons que la paix revienne dans notre pays et que nous arrivions à nous parler les uns les autres. Moi aussi, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Ouattara, mais nous espérons beaucoup de lui, qu'il nous aide à faire revenir celui qui l'a envoyé à La Haye, pour reconstruire la Côte d'Ivoire ensemble.
Je me réjouis parce que dans ce sens-là, je pense que les Ivoiriens vont comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et puis, je demande à tous les Ivoiriens d'accepter ce résultat, puisque ce résultat est vraiment cohérent et disons, dans la passivité, en quelque sorte. Quoi. Donc, je suis très ému.
Propos recueillis par Tatiana Mousseau, notre envoyée spéciale à Abidjan.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, une rétrospective des dernières élections en Afrique et un avant-goût des autres à venir. Dans certains pays, la question du troisième mandat fait toujours débat. Qui sont ces présidents qui s'accrochent au pouvoir? Mettent-ils en péril la paix dans leur pays? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
Au Cameroun, le syndicaliste et figure de la société civile, Jean-Marc Bikoko, et ses co-accusés ont comparu hier mercredi à Yaoundé. Également coordinateur de la plateforme d'information et d'action sur la dette du Cameroun, Jean-Marc Bikoko est notamment poursuivi pour rébellion. L'audience n'aura duré que 3 minutes et l'ouverture des débats a été renvoyée au 23 décembre. John Linden a réussi à joindre par téléphone Jean-Marc Bikoko.
Au début, on n'a rien compris parce que nous sommes arrivés au tribunal à 8h du matin. Et c'est aux environs de 11h moins que l'audience a été ouverte. Nous avons été informés, notre problème a été enroulé et on nous a appris que l'affaire était renvoyée au 23 décembre.
Vous bénéficiez, Jean-Marc, du soutien de la communauté internationale dans cette affaire. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose quant à ce qui est de son dénouement?
Je pense que la mobilisation de la communauté internationale a été de beaucoup dans notre libération et dans l'évolution même des faits qui nous étaient reprochés. Parce que le 15 septembre, lorsqu'on nous arrête, nous sommes accusés de rébellion et de désobéissance aux autorités administratives. On est donc condamné à une garde à vue administrative qui relève des faits de grand banditisme et de terrorisme. Avec la mobilisation de la communauté internationale et de la presse nationale, nous avons vu comment les faits ont évolué. 6 jours après, les faits ont été recalifiés et là maintenant, on nous accusait de manifestation illégale. Et 2 jours après, on a été libérés au niveau du parquet. Donc nous pensons que le soutien de la communauté internationale joue un très grand rôle dans le dénouement heureux de cette affaire.
Est-ce que vous avez le sentiment que quelqu'un vous en veut particulièrement?
Oui, on a l'impression que les dirigeants actuels en veulent à ma personne parce que je suis presque l'un des rares militants qui soit resté sur ses positions pendant des dizaines d'années. Et je suis presque le seul qui aujourd'hui initie encore des actions de mobilisation et d'interpellation. Et donc j'ai l'impression que il y a comme une tentative d'en finir avec moi pour qu'on soit sûr que la paix reviendra et qu'on n'aura plus en face quelqu'un à même de mobiliser les troupes.
Jean-Marc Bicoco, président de la centrale syndicale du secteur public et coordinateur de la plateforme d'information et d'action sur la dette au Cameroun.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
En Centrafrique, l'ancien rapporteur général Marie-Madeleine Ornaert-Nkwe a été élue par ses pairs présidente de l'ANE, l'autorité nationale des élections, en remplacement de Dieudonné Komboyaya, qui avait démissionné le 8 octobre dernier. La désignation de Madame Kwe à ce poste n'est pas une surprise, d'autant plus que celle-ci connaît parfaitement les rouages de cette institution, a déclaré Aurélien Simplice du parti Kelemba PDS au micro de Félix Yepassi Zembrou.
L'élection de Madame Marie-Madeleine Kwe à la tête de l'ANE, pour moi, cette élection ne m'a pas surprise, parce que cette dame, vu son passé, vu ses qualités et surtout qu'elle a été déjà là à l'époque de Komboyaya, pour nous, nous pensons qu'elle va prendre toutes les mesures nécessaires, elle va prendre toutes les précautions pour que les préalables soient résolus, soit par la communauté internationale ou soit par les autorités de transition.
Oui, et M. Simplice de Zingas, cela va-t-il changer quelque peu la donne dans le processus électoral, surtout quand on sait que l'unanimité semble se dégager autour d'un nouveau calendrier électoral?
Oui, le cadre de concertation conjointement avec l'autorité nationale des élections a eu une rencontre sur le nouveau chronogramme électoral. Nous avons commencé le débat et donc d'ici vendredi prochain, nous allons nous retrouver pour donner un autre point de vue par rapport à cela. Mais dire que l'élection de Mme Kwe va engendrer l'unanimité par rapport à ce chronogramme, je ne pense pas.
Oui, selon vous, techniquement et politiquement, les élections avant la fin de la transition, est-ce possible?
Vous savez, j'appartiens à une plateforme élargie des partis politiques et des personnalités indépendantes. Nous, on a toujours dit que aller maintenant aux élections, c'est comme pousser les Centrafricains vers l'abattoir, du moment où le pays n'est même pas sécurisé. Même, il y a eu encore d'événements malheureux au niveau de Bangui. C'est pour cela que nous pensons qu'il fallait absolument organiser une troisième transition, puisque le mandat de la présidente actuelle arrive à son terme d'ici le 30 décembre. Or, d'ici le 30 décembre, c'est impossible pour que les élections se tiennent.
Aurélien Simplice Zinga, secrétaire exécutif du parti Kelemba PDS.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
La Tanzanie attend les résultats des élections générales de dimanche dernier. L'archipel semi-autonome de Zanzibar a aussi voté, mais le président de la commission électorale locale a annoncé l'annulation du scrutin. Ces accusations ont été rejetées par le président de la commission électorale nationale, qui entend continuer, lui, le décompte. Pour un éclairage sur le statut particulier de Zanzibar, Idriss Fall a joint à Paris le politologue originaire de cette île, Mohamed Salé.
La Tanzanie résulte de l'union entre la République populaire de Zanzibar et la République de Tanganyika. Le 26 avril 1964, 100 jours après la révolution de Zanzibar, 3 mois après l'indépendance de Zanzibar, le 10 décembre 1963. Zanzibar a gardé son autonomie. Le gouvernement de l'union gère les affaires de l'union et en même temps les affaires de Tanganyika. Alors que Zanzibar s'occupe des affaires internes de Zanzibar. C'est pour ça à Zanzibar, il y a un président, un gouvernement et il y a un parlement. Les lois qui sont votées par le parlement de l'Union pour que puissent être appliquées à Zanzibar, il faut qu'ils soient approuvés par le parlement local, le parlement de Zanzibar.
Est-ce que les Zanzibaris sont représentés au parlement national à Dar es Salaam?
Oui, il y a un certain nombre de Zanzibaris qui siègent au parlement de l'Union. Leur nombre, je ne sais pas, représente à peu près 20% peut-être de tout le parlement.
Pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps des violences après des élections à Zanzibar?
Il y a des violences parce que le parti au pouvoir, le Chama cha Mapinduzi, qui est né en 1977 lors de la fusion du parti au pouvoir à Zanzibar et le parti au pouvoir sur le continent, c'est-à-dire l'union de Afro Shirazi Party et le Tanganyika African National Union, ont formé le CCM. En 1995, il y avait cette possibilité de l'opposition de venir au pouvoir, mais comme c'est le parti CCM à Zanzibar, il est appuyé par le gouvernement de l'Union, il y a toujours les militaires du continent pour empêcher que l'opposition prenne le pouvoir.
Et pour compliquer le tout, Saïf Sharif Hamad, l'actuel vice-président, s'est proclamé vainqueur de la présidentielle locale.
En fait, Saïf Sharif Hamad, il a demandé à la commission électorale de Zanzibar de tenir compte du comptage de toutes les circonscriptions qui lui donnent vainqueur, donc de lui annoncer comme le vainqueur. Mais ce n'est pas lui qui s'est annoncé. Il a demandé à la commission électorale de le faire.
Mais il n'y a pas de risque de violence alors?
Ah, violence ici, parce que depuis deux jours, il y a des gens qui se font attaquer. Pendant tout le processus électoral, il y avait des gens qui se cachaient le visage et qui attaquaient les gens. Donc la violence est là et le risque, il est très présent. En 1995, il y a eu des violences, il y a eu des morts. En 2000, il y a eu des violences. En 2001, à peu près 70 personnes ont été tuées. Pour la première fois, la Tanzanie a produit des réfugiés au Kenya et partout, même aux États-Unis. Et en 2005, il y a eu aussi des violences. C'est seulement en 2010, à cause de l'entente qu'il y a eu entre le parti au pouvoir et l'opposition, qu'il n'y ait pas eu de violence. Il y a eu le gouvernement de l'Union nationale qui est en place jusqu'à aujourd'hui.
Mohamed Salé, politologue originaire de Zanzibar.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
À la fin de cette édition, il me reste un petit peu plus d'une minute pour vous donner quelques nouvelles. Le Botswana a accordé l'asile politique à 10 footballeurs de l'équipe nationale d'Érythrée qui en avaient fait la demande mi-octobre après avoir disputé un match de qualification pour la Coupe du Monde 2018. C'est ce qu'a indiqué hier leur avocat. Les sportifs érythréens profitent souvent de déplacements à l'étranger pour fuir leur pays contrôlé d'une main de fer par le président Isaias Afewerki depuis 1993. Devant ces défections à répétition, les Red Sea Camels se sont retirés de plusieurs compétitions. L'an dernier, l'Érythrée a renoncé à participer à la Coupe africaine des Nations quelques semaines seulement avant son match contre le Soudan du Sud. Une des causes principales du départ des jeunes érythréens est le service militaire obligatoire, officiellement de 18 mois, mais qui peut durer indéfiniment. Et puis quelques nouvelles également. Les vautours d'Afrique, victimes des braconniers, connaissent un rapide déclin, a alerté ce matin l'Union internationale pour la conservation de la nature. 6 des 11 espèces de ces oiseaux présentent un risque élevé d'extinction. Tout ça à cause qu'ils sont des victimes involontaires d'empoisonnement à cause de carcasses garnies de pesticides. Cette fois, c'est vraiment la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Michel Joseph était à la réalisation. John Ellison était à la console. Présentation Claire Morin-Gibourg et Michel Joseph. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet voaafrique.com et grâce à notre page Facebook. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes.